Visite officielle du 9 au 11 juillet du ministre algérien des Affaires étrangères venu étudier à Paris les voies d'une coopération élargie avec la France.
Le dialogue qui reprend aujourd'hui entre l'Algérie et la France témoigne par lui-même des cheminements de l'histoire maîtrisés par la sagesse et la volonté des peuples. Nous sommes persuadés que cette rencontre trouvera dans la vertu de l'échange, les dimensions et les échos d'exigence à la mesure de nos intérêts et de nos ambitions.
En fait, les rapports franco-algériens connaîtront bientôt un nouveau refroidissement lorsque, le 25 août, à Marseille, un tramino est assassiné et trois témoins blessés par un Algérien que la foule exaspérée tente de lyncher. Dans les jours qui suivent, quatre Nord-Africains seront abattus par des inconnus. L'ambassadeur du gouvernement d'Alger à Paris ne peut que déplorer ces déchaînements de violence.
J'ai fait part à M. Jaubert, qui a bien voulu me recevoir, de la très forte émotion qui a été celle du gouvernement et du peuple algérien à la suite des abominables actes d'agression et d'intolérance et de racisme qui ont sévi ici et là ces derniers jours en France.
À Besançon, rien ne va plus chez LIP, leader de l'industrie horlogère française, victime de la concurrence internationale. Le 17 avril, la direction démissionne. Aussitôt, c'est la grève, puis l'occupation des usines par les grévistes qui s'emparent des stocks de montres et décident de les vendre. Jean Charbonnel, ministre du Développement industriel, ne peut que condamner la dilapidation de l'actif social et présente un plan de sauvetage.
Nous proposons la création d'une société d'exploitation dont le capital serait partagé entre l'Institut de développement industriel, qui agirait pour l'État, la société Ebauchessa, que vous connaissez, et la société de développement de l'horlogerie, qui apporterait en somme la caution des professionnels. Cette société de développement réembaucherait le plus vite possible environ les deux tiers des travailleurs qui actuellement travaillent dans l'horlogerie.
Après le jugement du tribunal de commerce, les CRS investissent l'usine et font évacuer les locaux.
Est insupportable pour le pouvoir, insupportable pour le patronat. Et finalement, c'est la fraction dure du patronat et du gouvernement qui l'a emporté et qui a décidé d'envahir l'usine.
Un médiateur est bientôt nommé, Henri Giraud, industriel spécialisé dans les entreprises en difficulté.
Je suis venu ce matin pour prendre contact avec vous et pour me présenter. J'ai le désir de rencontrer les différentes organisations syndicales. Et je leur donne dès maintenant rendez-vous à la direction départementale du travail à 17h pour la CGC, à 17h30 pour la CFDT, à 18h la CGT et à 18h30
négociation s'ouvre qui va durer plus d'un mois. Un compromis se dessine sur la promesse de réembaucher 1134 ouvriers sur les 1300. Mais les grévistes ne croient plus aux promesses. Charles Piaget, responsable régional CFDT de Besançon, repousse le compromis.
Nous annonçons que la vente des montres continue aujourd'hui même, ici à la sortie. Tout est prêt, tout est organisé. Pour les travailleurs de LIP, rendez-vous à 14h cet après-midi à la nouvelle usine de Palante qui s'appelle désormais LIP Changé.
LIP devra attendre une nouvelle chance. Le 10 août, le professeur Guillemet procède à la transplantation du cœur d'un jeune homme de 24 ans sur une jeune fille de 13 ans. c'est la première greffe pratiquée sur une enfant.
Nous n'avons pas rencontré de difficultés techniques particulières parce que le cœur de cet enfant était extrêmement dilaté par la maladie, étant donné qu'il s'agissait d'une dégénérescence du muscle cardiaque. Et donc, on a finalement mis un cœur d'adulte qui était moins gros que le cœur qu'avait cet enfant.
Après l'échec de cette tentative, on peut déplorer la publicité de mauvais aloi qui entoura l'opération, quand silence et pudeur auraient dû être les mots d'ordre. Le mercredi 5 septembre, 3 militants palestiniens, armés, occupent les locaux de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris. Se réclamant de l'organisation Châtiment, ils exigent la libération d'un de leurs chefs détenus en Jordanie contre l'élargissement des otages qu'ils détiennent. M. Paolini, préfet de police, mène les négociations.
Rassurer les fédéraux qui étaient inquiets en leur disant qu'en aucun cas la police ne rentrerait à l'intérieur de l'ambassade sans y être requis par l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. J'ai ajouté que par contre, s'ils sortaient sur la voie publique avec des otages, mon devoir était de les arrêter et je les aurais fait arrêter.
Le lendemain, le commando quittera le Bourget à bord d'un avion syrien. Au mois de septembre, réalisant un vieux projet prêté au général de Gaulle, M. Pompidou se rend en Chine populaire. Il y est reçu avec considération par M. Xuanlai. Entre les deux pays, les relations sont bonnes. C'est ce que rappelle le président de la République française.
En ce premier soir de mon séjour en République populaire de Chine, le mot qui me vient le plus spontanément à l'esprit est celui d'amitié. Oui, c'est un message d'amitié qu'avant tout j'apporte ici, aujourd'hui, de la part du peuple de France au peuple de Chine.
À Tokyo, les ministres des Finances des 83 pays dits les plus favorisés adoptent le projet d'une déclaration tendant à accorder aux 25 pays les moins développés un traitement de faveur dans les négociations commerciales. Reçu par le Premier ministre japonais, M. Giscard d'Estaing donne une conférence de presse.
Alors, si vous me permettez, je vais traduire en français. Cela veut dire, messieurs, aujourd'hui, je suis très heureux de vous rencontrer. Et si vous le voulez bien, vous pouvez me poser librement vos questions.
On savait depuis plusieurs mois que le Chili connaissait une crise économique grave. Pour lutter contre la hausse des prix, le gouvernement de Salvador Allende avait été contraint de prendre des mesures particulièrement impopulaires dans les classes défavorisées. Pourtant, en dépit de l'échec global de ces tentatives et malgré les grèves qui bloquaient la production, le président Allende affichait l'optimisme tout en accusant les États-Unis de mener subversive.
Que nosotros separamos la política del gobierno norteamericano de las grandes empresas transnacionales que han agredido a Chile económicamente, que han pretendido intervenir en la política interna, que nos han llevado al borde de la guerra civil, que utilizan y utilizaron su dinero con estos propósitos. De la misma manera que ha quedado evidenciado en la subcomisión del Senado norteamericano la acción de la CIA interviniendo en diversos países y entre otros en el nuestro.
Toutefois, la situación va rapidement se dégrader. Et le mercredi 12 septembre, la radio chilienne annonce la mort du chef de l'État et avance l'hypothèse du suicide, tandis que des affrontements opposent les partisans et les détracteurs du président, ces derniers soutenus par l'armée. Très bientôt, une junte militaire va s'emparer du pouvoir et rétablir l'ordre. Le général Augusto Pinochet, chef de l'armée de terre, justifie le putsch par le caractère marxiste des désordres qui soulèvent le pays.
Actuellement, a prácticamente a la normalidad. Aún no quedan focos de marxista y gente extremista en algunos lugares de la ciudad que están siendo allanados y están siendo capturados. El resto del país está normal.
En France, la destitución du régime socialiste chilien et la mort de son président soulèvent les passions, mais le gouvernement s'abstient de prendre parti. Les organisations de gauche réagissent bruyamment, appelant à des manifestations et à des défilés, tandis que François Mitterrand exprime l'indignation des socialistes.
Je pense qu'il arrivera très vite le moment où l'on pensera que si l'on doit s'inspirer d'un exemple, c'est beaucoup plus celui de Salvador Allende que de celui des hommes qui viennent de l'abattre et qui paieront le prix de leur trahison à l'égard de leur peuple.
Quant au secrétaire général du Parti communiste, il n'a aucun scrupule à intervenir dans les affaires intérieures du Chili.
Pour ce qui nous concerne, nous prenons immédiatement les mesures qui s'imposent dans chacun de nos pays pour mobiliser nos militants, les travailleurs et les démocrates. En même temps, nous avons la conviction que les plus larges initiatives sont indispensables et nous nous adressons à cette fin à tous ceux qui comprennent qu'il n'y a pas une heure à perdre.
Fernand Reynaud envisageait depuis quelques années de quitter la France pour trouver un repos bien mérité.
Nouméa est un département français, 100% ensoleillé toute l'année. Et pourquoi pas, je n'irai pas dans ce joli pays où on est tranquille, il n'y a pas de problème, c'est merveilleux, c'est un paradis qui dure toute l'année.
Mais, ironique, le destin l'entendait autrement. Le célèbre fantaisiste mourra en télescopant le mur d'un cimetière. Presque un an, jour pour jour, après la défaite de Jean-Claude Boutier contre Carlos Monzón, une nouvelle rencontre entre les deux boxeurs a lieu à Roland-Garros. Ce deuxième championnat du monde des poids moyens verra une nouvelle victoire du boxeur argentin.
Bueno, creo que sí, ya que aguantó los 15 rounds y fue un gran boxeador.
Alain Delon avait organisé la rencontre.
Je pensais vraiment que Jean-Claude allait l'avoir à l'usure. Et puis, il y a eu cette espèce de revirement au 12e où vraiment il a montré qu'il avait non seulement des capacités extraordinaires, mais des facultés de récupération insoupçonnables.
L'un des grands événements nautiques de l'année est le départ de la course autour du monde donnée le 8 septembre à Portsmouth. Les deux premières étapes, celle de Sydney et celle du Cap, suffiront à prouver les difficultés de l'entreprise ainsi que ses dangers. Deux hommes tombent à la mer, plusieurs bateaux seront endommagés. Ainsi le Pinduic 6 d'Éric Tabarly.
Nous avons sorti récupérer juste là notre voile, le top de la crinquette. Actuellement, nous en route sur Rio, Portugal, avec seulement la voile d'artiment et la gueule du fer.
Jean Royer, acquis des triomphes électoraux à Tours, assure une notoriété de bon aloi, s'est fait le défenseur des commerçants et artisans en révolte. En le nommant ministre, le gouvernement lui donne la charge de les ramener dans le giron de la majorité.
Si ces commerçants et ces artisans, qui sont des individuels, et encore plus des individualistes, sont parfois rebelles, il faut aussi reconnaître leurs efforts, leur cran, leur sens de l'honnêteté, leur sens de la parole donnée, le respect de la clientèle. Ce sont là des qualités humaines, des qualités sociales qu'il faut rendre totalement au patrimoine sociologique de la France.
Après de longues hésitations et en dépit des pressions venues d'Israël, le gouvernement autrichien se résigne à donner satisfaction aux commandos palestiniens qui, le 28 septembre, s'est emparé de trois juifs soviétiques et d'un douanier autrichien. Le chancelier Bruno Kreisky décide la suppression des facilités de transit accordées aux émigrants israélites du RSS.
Il n'y a pas d'obstacle, mais c'est nécessaire de faire ça plus vite qu'avant.
À la fin de l'été, la généralisation de la détente autorise une vue optimiste de l'avenir. Pourtant, le 6 octobre, à midi, la trêve précaire, instaurée au Proche-Orient depuis 1967, est rompue par l'Égypte et la Syrie, qui, pour la première fois, prennent l'initiative des hostilités contre leurs voisins israéliens. Les les Arabes franchissent le canal et bousculent les lignes de défense israéliennes. Ces premiers succès inspirent au président Sadat une satisfaction qui contraste avec l'accablement de Mme Golda Meir. D'emblée, l'affrontement a pris une dimension internationale. Le gouvernement français affirme vouloir observer une stricte neutralité et fait connaître par le ministre des Affaires étrangères son sentiment intime.
Pour répondre plus complètement à votre question, je serais tenté d'en poser une autre et de dire ceci. Est-ce que tenter de rentrer, de remettre les pieds chez soi, constitue forcément une agression imprévue? Et je pense que c'est une question qui mériterait de rejoindre les réflexions que les uns et les autres feront au cours des prochains jours.
Trois guerres successives, gagnée par Israël, avait convaincu la France de la supériorité militaire du peuple juif. Pourtant, les nouvelles tombent alarmantes. Aux Nations Unies, Michel Jobert, inquiet, propose ses bons offices.
J'offre le concours de mon pays pour que la guerre s'apaise rapidement et ne puisse renaître. Nous pourrions faire des suggestions pour contribuer un règlement pacifique, à condition que tous en veuillent et veuillent vraiment une paix juste et durable.
Mais les deux supergrands sont bien disposés à régler eux-mêmes le conflit sans laisser écraser leurs alliés respectifs. Kissinger va à Moscou et dessine les traits d'un accord pour la suspension des hostilités. Soudain, une manœuvre audacieuse du général Sharon permet aux troupes israéliennes de passer le canal à leur tour. C'est maintenant aux Égyptiens de s'alarmer et de demander l'application immédiate du cessez-le-feu que le ministre des Affaires étrangères israélien, M. Abba Eban, consent à accepter.
Nous avons décidé d'accepter cette renonciation en faveur de la possibilité d'avoir un cessez-le-feu dans une situation généralement favorable.
Le Conseil de sécurité se réunit d'urgence tandis que les troupes israéliennes consolident leur position sur la rive gauche du canal. Les pourparlers, engagés sous les auspices des Nations Unies, aboutissent à un accord conclu au kilomètre 101. Les États arabes, soutenus par l'URSS, prennent alors conscience qu'ils possèdent, avec le pétrole, une arme absolue.
Il faut que cette arme soit utilisée avec discrimination, qu'elle ne soit utilisée que contre les États qui sont étroitement associés avec Israël. Alors que les États qui sont neutres, pour prendre l'exemple de votre pays, il faut s'arranger à ce qu'ils ne compatissent pas de l'utilisation de cette arme.
Bientôt, une conférence qui réunit la plupart des belligérants, la Syrie exceptée, s'ouvre à Genève. On s'y propose d'explorer les voies d'un accord pour régler définitivement le conflit qui, depuis un quart de siècle, déchire le Proche-Orient. Mais il est permis de se demander si une solution de droit ralliera jamais l'adhésion des éléments les plus extrémistes. Ceux-là même qui n'hésitent pas à recourir à l'attentat terroriste comme celui qui ensanglante l'aéroport de Rome.
C'était un vrai cauchemar. Je ne suis pas tout à fait encore là. Disons qu'il y avait des moments où on avait l'impression qu'ils avaient l'intention de nous relâcher tout de suite. Et puis il y avait des moments où... On avait l'impression qu'ils voulaient nous tuer, quoi. C'était très, très différent. Je crois que ce qui nous faisait plus peur, c'est qu'ils avaient constamment leurs pistolets et puis leurs mitraillettes avec eux. C'était affreux.
Autre conséquence de la crise pétrolière et de l'augmentation du fioul, la grève dans les cimenteries, dont les employés souhaitent bénéficier de la hausse récente des prix du ciment. Bientôt, 500 000 employés sont menacés par la grève technique. Jean Bailly, président de la Chambre syndicale des producteurs de ciment, met tout en œuvre pour trouver une solution à la crise.
Des négociations sont en cours concernant la classification des emplois et la retraite qui a déjà été donnée à 64 ans. Et pourtant, c'est la grève. Nous restons prêts à reprendre les discussions interrompues. La balle est dans le camp des syndicats.
Nommé pour 3 ans PDG de l'ORTF, Arthur Comte est destitué le 20 octobre par le Conseil des ministres qu'il avait nommé 16 mois plus tôt. L'éphémère patron de l'office est remplacé par M. Marsolon, haut fonctionnaire venu du ministère des Armées et que tous considèrent comme la dernière chance du monopole.
Monsieur le Président, je vous souhaite beaucoup de chance et je vous souhaite surtout beaucoup de courage.
C'est en général ce que mes amis m'ont dit.
Le mercredi 14 novembre, à l'abbaye de Westminster, sanctuaire de la monarchie britannique, Anne d'Angleterre épouse le lieutenant de ses rêves, en présence du Gotha au grand complet et du docteur Ramsay, archevêque de Canterbury.
I, Mark Anthony Peter.
Take thee, Anne Elizabeth Alice Louise.
To my wedded wife.
To have and to hold.
From this day forward.
C'est maintenant au tour de la princesse de prononcer les serments rituels.
Take thee, Mark Anthony Peter. To my wedded husband. To have and to hold. From this day forward. For better, for worse. For richer, for poorer.
C'est au cinquième tour de scrutin que l'Académie Goncourt, au cours de sa 584e réunion, a attribué le prix Goncourt 1973 à Jacques Chessé pour son roman L'Ogre, contre deux voix à Patrick Grimbert.
Tournant résolument le dos à la mode, Jacques Chessé n'a pas hésité à donner à son roman la tendresse et la vérité qui fondent L'Ogre, le prix Goncourt 73.
L'Ogre, c'est le père, en effet. C'est l'histoire de quelques mois de la vie d'un fils après la mort de son père. Cette mort devait le délivrer, et à vrai dire, aux premières pages de l'ouvrage, Jean Calmet, le personnage, est heureux. Il sent une espèce d'allègement de tout son être et même de son esprit à songer que son père n'est plus qu'un petit tas de cendres au fond d'une urne.
Suzanne Proulx ne peut cacher sa prédilection pour le charme de la vie provinciale et son roman La terrasse des Bernardini, prix Théophraste Renaudot de l'année, révèle un art contenu, rapide, corrosif.
C'est l'histoire de deux vieilles dames qui vivent ensemble dans une très belle maison, très vieille, une maison où il y a une belle terrasse. Et ces deux vieilles dames s'aiment et se détestent et vivent ensemble d'une façon étrange parce que, au fond, elles répètent, on a l'impression qu'elles répètent des gestes et des attitudes d'autrefois. Et moi, je les aime beaucoup parce qu'elles ressemblent à des quantités de vieilles dames que j'ai connues autrefois.
Le samedi 17 novembre, la loi martiale est proclamée en Grèce alors que des étudiants contestataires tentent de s'opposer aux forces de l'ordre. Après trois jours d'affrontement, plus de 200 agitateurs sont déférés devant les tribunaux d'exception, tandis que Georges Mavros, l'une des personnalités de l'opposition de gauche, donne une conférence de presse avant d'être placé en résidence surveillée.
Le gouvernement actuel est un gouvernement très faible, qui a été formé pour l'occasion immédiatement après le renversement de Papadopoulos pour éviter les chaos. Un gouvernement qui ne sait pas où il va.
Mais le dimanche 25, un putsch militaire impose l'ordre et renverse le président Papadopoulos. Par la force des choses, le calme va se rétablir. Tous les syndicats et partis de gauche invitent les travailleurs à faire une grève de 24 heures et à manifester dans Paris le 6 décembre.
Les trois formations se réjouissent de l'étendue de l'action unitaire entreprise contre la hausse des prix et appellent l'ensemble des Français, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, à participer ou à apporter leur soutien actif à la grève générale et aux manifestations du 6 décembre.
Pourtant, en dépit des déclarations optimistes de Edmond Maire, la mobilisation n'atteint pas l'ampleur que le caractère hors série de la proclamation unitaire avait permis d'espérer.
La grève générale très réussie d'aujourd'hui montre que les salariés entendent bien que des mesures soient prises pour arrêter la hausse des prix, pour freiner, stopper le chômage, et c'est bien cette annonce de cette grande mobilisation qui est pour nous un motif d'espérance d'arriver enfin à de véritables négociations et à des succès réels par des mesures véritables.
Les gouvernants de la Ve République avaient toujours affirmé n'utiliser les écoutes que pour protéger l'État et l'intérêt public. Qui pourrait soutenir pourtant que telle était la mission de ceux qui ont été surpris dans la nuit du 4 décembre, posant des micros dans les futurs locaux du Canard Enchaîné.
Je pousse un peu la porte et je m'introduis dans nos bureaux. Une pièce est éclairée. Je découvre le transhomme en combinaison bleue. Des postes émetteurs récepteurs sont posés par terre. Du matériel, des fils, des lames de parquet sont enlevées et des fils courent entre les lambourdes. Je leur déclare que c'est vraiment très, très intéressant et je commence à faire une retraite prudente. Je me retrouve sur le trottoir devant la porte cochère et un agent de police en uniforme est là. J'ai déjà vu en rentrant. Il a un talkie-walkie en sautoir. Et au moment où je passe devant lui, j'entends le talkie-walkie qui émet les phrases suivantes. Allô numéro 2, allô numéro 2. Suivez le type qui vient de sortir d'ici. On décroche, sauf qui peut, sauf qui peut.
À l'Assemblée nationale, les socialistes demandent la constitution d'une commission d'enquête. Mais la majorité la rejette par 258 voix contre 217. Aussitôt, Gaston Defer dénonce le scandale.
Je veux dire à M. Marcellin que quand nous avons le sentiment que le gouvernement dont il fait partie est lui-même, soit de l'attribution, soit pour organiser des écoutes politiques, soit pour organiser des écoutes personnelles, soit pour mettre sur pied des systèmes d'interception des conversations, même s'il ne s'agit pas de conversations téléphoniques, nous avons le droit alors, à notre tour, d'invoquer les traditions et les règles des principes républicains pour dire à M. Marcellin, ministre de l'Intérieur, et à tous ses collègues du gouvernement, halte là, nous n'accepterons pas que les principes républicains continuent à être foulés aux pieds avec le sentiment d'impunité, c'est là le mot, que pendant trop longtemps, vous nous avez donné l'impression de ressentir, parce que depuis une quinzaine d'années, un certain nombre d'entre vous ont trop souvent cru que l'État, c'était eux, et que la France était leur propriété.
M. Marcellin, ministre de l'Intérieur, viendra lui-même à l'Assemblée protester de sa bonne foi.
Que ceux qui insinuent, qui profèrent des insinuations calomnieuses à l'égard de chefs de gouvernement sans penser une seconde ni à la France, ni à l'État, en pensant seulement qu'à leurs intérêts personnels, que ces gens-là viennent nous accuser, nous ne l'acceptons pas leurs accusations. Et quant à ceux qui ont eu un certain nombre de scandales sur le dos et qui, dans leurs journaux, viennent nous donner des leçons de morale, nous avons la mémoire suffisamment fraîche encore actuellement pour nous souvenir du scandale de l'Observatoire, des déclarations qu'on a été obligé de faire. Alors, ces accusations-là, je les refuse. Je ne les accepterai jamais. Et nous aurions encore bien d'autres choses à dire, et sur beaucoup. Alors, vos leçons de morale, gardez-les.
La crise que traversait depuis d'un an le ski français prend un tour nouveau le dimanche 9 décembre, lorsque le président de la Fédération française déclare:
j'ai décidé de procéder à une rénovation et à un rajeunissement de nos équipes. En conséquence, ne font plus partie des équipes de France les coureurs dont les noms suivent. Deux jeunes filles, Mademoiselle Ingrid et Brit Laforgue, Monsieur Duvillard, Jean-Noël Augère, Patrick Russell, cette mesure doit permettre de retrouver un climat de confiance nécessaire pour la bonne préparation des compétitions futures et notamment des prochains Jeux Olympiques d'Innsbruck en 1976.
Les champions français ont souvent défié l'autorité de leurs entraîneurs. Pourtant, la discipline n'est-elle pas une des forces principales du sportif? Qu'en pense Patrick Russell, qui s'est distingué à diverses reprises dans la Coupe du Monde?
On ne peut pas dire qu'il y a de conflits entre les skieurs et les entraîneurs. Mais il y a, de temps en temps, il y a de petits hauts, des petits bas. Bon, ben ça arrive un peu partout. Mais on ne peut pas dire que le conflit soit comme il était l'année dernière. Ça, c'est pas vrai.
Souhaitons qu'à l'avenir, les victoires des skieurs français fassent oublier les escarmouches qui se jouent en coulisses. Commencé dans l'euphorie, l'année 73 se termine tandis que montent à l'horizon les nuages menaçants de la récession économique et du chômage. Aussi, c'est un message empreint d'une exceptionnelle gravité que le président de la République adresse aux Français.
Soyons résolus, et le ciel s'éclaircira. Soyons unis, et l'avenir nous récompensera. Françaises, Français, du fond de mon cœur, je souhaite que l'année 1974, malgré quelques bourrasques, vous apporte à chacune et à chacun de la joie dans votre vie personnelle, familiale, dans vos projets. Bonne année, Françaises, Français. Bonne année et vive notre France.
L'année 1974, tout le monde le sent bien, sera déterminante pour l'avenir de chacun, qu'il soit simple citoyen ou chef d'État.